Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Aujourd'hui, Saturne, avec Claude Métra.
Dans le cadre de la semaine spéciale d'hommage à la mémoire de Claude Métra, nous continuons la rediffusion des chemins de la connaissance par ces vivants et les dieux consacrés au thème de Saturne, la plus lointaine des planètes du système solaire, l'un des gouverneurs du système astrologique et le maître de la mélancolie. Pourquoi avoir choisi Saturne? C'est que, précisément, à la fin de ses chemins de la connaissance consacrés aux demeures d'Albert Dürer, Claude Métra terminait sur ce thème de la mélancolie, tel que d'ailleurs, on le sait, il avait été largement exploré par quelqu'un comme Panofsky dans son étude sur Saturne et la mélancolie, au moment où l'on passe du Moyen-Âge à la Renaissance, c'est-à-dire précisément à l'époque de Dürer. Et donc, il nous a semblé intéressant de remonter au dieu même de la mélancolie, à ce Saturne dont on sait à quel point il a habité l'imagination des hommes. Saturne, qui est le nom latin, qui renvoie évidemment au dieu Cronos que l'on trouve dans la mythologie grecque, ce Cronos, ou par un jeu de mots, par un jeu sur les mots plus exactement, on l'a confondu, alors que Cronos s'écrit avec un kappa, avec Cronos, avec un ki, avec un ch en graphie française, qui est le dieu du temps, comme si d'une certaine manière, le dieu de la mélancolie était aussi le dieu du temps qui se fige, du temps qui s'immobilise, et on sait très bien que dans tous les phénomènes mélancoliques, tous les phénomènes dépressifs, c'est effectivement le phénomène auquel on est confronté. De ce point de vue-là, d'ailleurs, nous remontons évidemment au grand texte mythologique au fondateur, c'est-à-dire d'une part à la théogonie d'Hésiode, où on voit la manière dont Cronos va surgir dans la généalogie des dieux en tant que fils du ciel étoilé et en tant que père de Zeus, et puis en même temps aux travaux et les jours du même Hésiode, où nous avons l'évocation d'un Cronos beaucoup plus avenant, si l'on peut dire, le Cronos qui règne sur l'île des Bienheureux, le Cronos père de la fécondité, et qui est ce Cronos qui a été particulièrement retenu par les Latins. Il suffit de songer, évidemment, au début des Métamorphoses d'Ovide, où on voit Saturne comme le dieu de la richesse, en quelque sorte, ou alors l'évocation fameuse, on le sait, dans la quatrième églogue de Virgile, et ce vers que la chrétienté, d'ailleurs, aura commenté pendant des siècles et des siècles, quasiment jusqu'au vertige, « Etiam redit et Virgo, et regia Saturna, déjà revient la Vierge, il règne de Saturne, nous sommes sous le règne d'Auguste, nous sommes peu avant la naissance du Christ, dans la Vierge on a vu comme l'annonce effectivement de la Vierge Marie, j'en laisse la responsabilité aux théologiens qui ont ainsi commenté, mais où surtout il y avait cette idée du retour à l'âge d'or de ces règnes de Saturne dans lesquels Rome allait connaître à nouveau son destin fabuleux, son destin d'accord avec l'univers, et en même temps cette richesse, richesse réelle, richesse métaphorique, qui allait la remplir pendant les décennies, sinon pendant les siècles à venir. Et on sait que ce dieu Saturne, ce dieu Cronos, n'est pas simplement confinable, si l'on peut dire, dans l'Antiquité, comme on pourrait facilement le croire, mais qu'il a traversé, là aussi, l'ensemble de l'histoire des idées, et particulièrement, évidemment, de l'histoire des idées occidentales. Puisqu'on va le voir faire un retour, et un retour en force, à la fin du Moyen-Âge, dans la Florence des Médicis, particulièrement sous la plume du grand philosophe, qui était Marcille Ficin, le traducteur de Plotin, le traducteur de Platon, le traducteur en même temps du corpus hermétique, qui précisément va reprendre Saturne comme dieu de la mélancolie, en montrant à la fois à travers ses correspondants astrologiques, mais en même temps ses correspondants alchimiques, comme à travers la mélancolie, c'est le genius, ce que d'une manière très maladroite nous traduisons par le génie, qui va s'imposer. Bien entendu, par génie, il ne faut pas voir la vision romantique du mot dont nous avons hérité, mais beaucoup plus l'habitation en nous de ce que les Latins appelaient le genius, c'est-à-dire le principe de l'intelligence suprême, l'intuition intellectuelle, en quelque sorte, et en même temps l'habitation des dieux en nous. Et lorsque je fais allusion à Marcel Ficin, on sait très bien que c'est à peu près la même époque, effectivement, ou grave aussi Dürer, où nous retrouvons cette mélancolie qui se répand sur l'Europe et dont nous allons retrouver la trace, évidemment, on le sait, jusque dans les œuvres de Montaigne.
Saturne, nous le rencontrons, pourrait-on dire, dès le début de notre existence, puisque, comme figure emblématique de la mélancolie, il accompagne toute cette nostalgie que nous avons dès nos premiers pas, une nostalgie qui s'adresse à l'univers perdu, peut-être, de la matrice maternelle, et qui, au-delà de la matrice maternelle, évoque aussi peut-être un paradis plus lointain dont nous avons été exilés. Et beaucoup de tempéraments, beaucoup de caractères sont marqués profondément par cette appartenance mélancolique, comme si, dès le début de leur existence, ils avaient le sentiment d'être quelque part en exil, et que, tout au long de leur parcours, ces mélancolies vont s'ajouter à leur destin, vont le colorer et au fond donner une tonalité générale à une vie qui aura sans cesse en arrière-plan le sentiment d'une perte, d'un exil, de quelque chose qui ne reviendra pas. Et la figure de Saturne est au fond le symbole même de ces exils successifs que nous éprouvons. En réalité, Saturne est la plus éloignée des planètes, et comme elle est la plus éloignée des planètes, elle est la plus éloignée peut-être aussi de cet âge d'or que nous avons souvent évoqué à travers nos mythologies, à travers nos poésies, le sentiment qu'il existait un royaume, et que ce royaume qui appartenait à l'histoire, qui appartenait simplement à l'imagination, ce royaume reste toujours vivant dans notre esprit, et la reconquête de ces terres perdues est comme une ambition suprême de notre existence.
Ce que Claude Mettra appelle l'abîme primordial à partir de la théogonie d'Hésiode, c'est ce que nous avons l'habitude d'appeler le chaos, en revenant évidemment au mot grec « chaos », à cela près que « chaos », on le sait aujourd'hui, signifie d'abord la faille, la fente béante. C'est-à-dire, d'une certaine manière, renvoie, tous les hellénistes en sont d'accord aujourd'hui, à une sorte de féminité abyssale, si l'on peut dire, de laquelle les hommes, généralement, ont eu tellement peur. Mais en même temps, ce chaos ne donne pas simplement le jour à Gaïa, à la terre au large flanc qui va supporter l'ensemble de l'humanité, l'ensemble des générations des dieux, mais d'abord à Eros. À Eros, le premier-né des dieux, comme si le mouvement de production, le mouvement de manifestation, qui est celui de cet abîme, était précisément cet élan amoureux, cet élan érotique qui va emporter l'ensemble de l'univers. Et puis, à côté de Eros et de Gaïa, on sait très bien que vont apparaître le jour et l'éther étant l'essence subtile du jour, si l'on peut dire, en même temps que la nuit et les ténèbres elles-mêmes étant la surdétermination de la nuit. C'est-à-dire que d'une certaine façon, est créé l'espace dans lequel peut se répandre le ciel étoilé, Uranos, et en même temps apparaissent les puissances qui sont celles de la nuit et des ténèbres, c'est-à-dire celles du sommeil, Hypnos, celles du songe, Oneiros. D'une certaine façon, c'est ainsi un panorama complet qui nous est donné de nos dispositions psychiques et où on voit comment, à partir de cette faille, à partir de cette féminité primordiale et d'une certaine manière incernable, indicible par les mots, comment, en fin de compte, ce sont tous les pouvoirs de l'imagination qui vont être là, de l'imagination liée elle-même au pouvoir de l'éros.
Le personnage de Saturne que nous allons quêter, que nous avons cherché tout au fond de la mythologie, à la fois grecque, latine, et dont on retrouve sous d'autres formes la figure dans quasi toutes les mythologies, c'est celui qui précisément est là, pourrait-on dire, pour nous rappeler que notre royaume, qui n'est pas encore en nous, nous avons à le chercher. Et par là, la mythologie nous dit très clairement que Toutes les formes de mélancolie sont un ferment puissant pour nous inciter à aller au-delà de nous-mêmes, au-delà de nos angoisses, au-delà de nos détresses apparentes, pour reconquérir quelque chose qui appartient au domaine des dieux.
Le Netra, tout ce domaine de la mélancolie, ce domaine en même temps, je dirais, des religions astrales et de ce qui va devenir l'astrologie, ce domaine éventuellement de l'âge d'or, nous allons essayer de le parcourir, essayer de le comprendre. Mais si vous le voulez bien, le mieux serait peut-être quand même de commencer en quelque sorte à l'origine. C'est-à-dire, je pense, avec l'écran texte qui nous reste, qui est la Théogonie d'Hésiode, qui nous raconte l'histoire de ce Chronos, que nous connaissons d'habitude sous le nom de Saturne, parce que c'est quand même déjà une histoire qui est très à part de toutes les histoires des dieux auxquelles nous sommes habitués. Dans les commencements, vraiment, les choses se passaient d'une manière assez, disons le mot, assez épouvantable.
Au commencement, nous dit Hésiode, il y a l'abîme, le monde noir. Et puis de cet abîme, un jour, surgit une figure extraordinaire qui est celle de Gaïa, la Terre. Celle qui deviendra la terre-mère. Et pour se sauver de l'abîme, c'est-à-dire pour se sauver du noir, Gaïa décide d'accomplir le monde, c'est-à-dire de l'enfanter. Et tirant d'elle-même sa propre semence, sa propre substance, elle engendre une série d'enfants. Mais avant d'engendrer des enfants, elle engendre celui qui va être son parèdre, c'est-à-dire le ciel étoilé, Uranos. Et cet Uranos est imaginé avec tant de force que c'est une puissance fécondante qui va submerger complètement Gaïa. En effet, chaque nuit, Uranos, le ciel étoilé, arrivant avec ses soleils, ses étoiles, ses astres innombrables, vient étreindre Gaïa. Et elle n'en peut plus au bout de peu de temps parce que la fécondité étant en route comme ça, elle porte dans son sein une quantité d'enfants qu'Uranos, sans cesse préoccupé uniquement de l'étreinte, ne veut pas laisser partir, ne veut pas laisser sortir du ventre de Gaïa. Gaïa est évidemment en proie à de grandes souffrances puisque ses enfants, en elle, s'agitent pour se délivrer de l'empreinte d'Uranos, le ciel étoilé. Pour donner forme à ces enfantements, Gaïa demande à un de ses enfants, Chronos, de venir à son aide. Et elle donne à ce Chronos une serpe, charge à lui d'émasculer Uranos au moment où il viendra dans la nuit pour étreindre Gaïa. Au moment venu, quand Uranos s'approche, Chronos, avec la serpe en main, coupe les parties sexuelles de Uranos et les jette dans la mer. Et de cette sève et de ce sang mêlé, ainsi jeté dans la mer, naîtra, nous dit la mythologie antique, Aphrodite elle-même, Aphrodite, l'enfant de la vague. Uranos, ainsi privé de sa virilité, s'éloigne dans le ciel. Il s'exile. Et il ne fera plus que contempler les grands désordres qui vont désormais régner sur le monde.
Si on veut véritablement comprendre, jusque dans son horreur, si l'on peut dire, le thème de l'avalage de ses enfants par Saturne, il faut sans aucun doute penser au tableau de Gaïa tel qu'on peut le contempler au Prado, où on voit une sorte de géant informe avalant des enfants qui eux-mêmes sont à peine des enfants, sont à peine des créatures humaines, avec des sortes de baves et de sang qui lui coulent de la lettre, et là nous sommes devant l'horreur quasi pure. Et c'est là où, sans aucun doute, on saisit le mieux comme ce qui est désigné, c'est quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'en alchimie on appelle la nigredo, le travail au noir, la décomposition, la dissolution, la disparition de tout élément, et qui renvoie aussi beaucoup plus profondément, sans aucun doute, à ce qui est la phase mélancolique même, la plus profonde, de l'initiation, par exemple, dans les sociétés chamaniques, et je pense aux chamans Yakout ou Brouyat, où l'on sait que, au travers de cette initiation, le chaman, à un certain moment, doit se séparer de sa tribu ou de son peuple, vivre seul dans une yourte où les esprits viennent et, avec des crocs de boucher, vont complètement le défaire, vont complètement le dépecer, vont lui arracher toutes les chairs, vont lui récurer tous les os, jusqu'au moment où il va être recomposé. Et de cette façon, effectivement, de Goya au chaman, c'est bien à cela que nous introduisons et Saturne, avec cette idée, c'est que l'on passe du ventre de la mère, de Gaïa, dans lequel renvoyait ses enfants Ouranos, au ventre du père, ce que fait Saturne lui-même, c'est-à-dire en avalant ses enfants, et où, d'une certaine manière, on passe à ce que, très maladroitement, et d'une manière évidemment très masculine, les Grecs imaginent comme étant de l'ordre de l'esprit ou des esprits.
Cronos ne craint qu'une chose. Il craint que des enfants, s'il les laisse sortir du ventre de Gaïa, dont il a fait sa femme, dont il a fait sa parèvre, ne jouent sur lui le même jeu que lui a joué sur son propre père. Et au moment où ils sortent du ventre de la mère, au moment où ils viennent prendre leur place dans le déroulement de la vie, eh bien, il les avale. C'est ce qui sera représenté souvent dans les tableaux mythologiques, Saturne, Cronos, avalant ses enfants.
S'étant soumise à l'amour de Saturne, Rhea enfanta de glorieux enfants. Hestia, Déméter, Héra aux pieds chaussés d'or, et le puissant Hadès qui habite un palais souterrain et dont le cœur ne connaît pas la pitié. Elle enfanta aussi le brillant ébranleur du sol et le sage et rusé Zeus, le père des dieux et des hommes, dont le tonnerre fait trembler la vaste terre. Mais au fur et à mesure que chacun d'eux sortait du ventre sacré de sa mère et arrivait à ses genoux, le grand Saturne les avalait. Il avait souci d'éviter que quelque autre des descendants du ciel n'exerçât la royauté parmi les immortels. Car il avait appris de terre et de ciel étoilé que le destin lui réservait de subir la loi de son propre fils, si fort qu'il fût lui-même, ainsi en avait décidé le grand Zeus. C'est pourquoi, se tenant à l'affût, il ne cessait de guetter ses enfants pour les avaler.
Mais Gaïa ne peut pas supporter de voir ainsi toute sa postérité s'en aller dans le néant. Et un jour, quand elle accouche une nouvelle fois, elle donne une pierre à la place de l'enfant, Cronos avale la pierre, mais l'enfant est là, et cet enfant, c'est celui qui deviendra le grand dieu, c'est-à-dire Zeus, pour le dérober à la convoitise de Cronos, Gaïa l'envoie en Crète, où il sera sous la sauvegarde d'Amalthée. Au fur et à mesure qu'il le grandira, que s'affirmera son désir de prendre possession de ce qu'on considère comme son royaume, à ce moment-là, ce qu'on pourrait nommer le royaume de Saturne va se défaire progressivement, parce que Saturne, dans l'obsession de sa dépossession, enfin Cronos plus exactement, dans l'obsession de sa dépossession, de son exil, vit dans un état de grande agitation. Et il ne se rend pas compte que le monde est en train de se construire quelque part dans l'imagination précisément de Zeus, qui au moment où il accède à la maturité, décide de déposséder complètement Cronos, de l'exiler. Alors, la route de l'exil est tracée différemment suivant les récits. D'une manière générale, on considère que il va être exilé du côté de Rome, du côté du Latium, et que par conséquent, il va réintroduire là ce qu'on nommera plus tard l'âge d'or, qui restera dans la mémoire latine extraordinairement vivant. Ou bien, d'autres récits nous laissent penser que Cronos est exilé définitivement dans les terres boréales, dans des pays où la lumière ne se couche jamais, que par conséquent, il va venir la figure emblématique, mais complètement apaisée, du savoir universel, de la connaissance, puisque il est dans un lieu qui est tout entier un lieu solaire.
Comme elle s'apprêtait à mettre au monde Zeus, le père des dieux et des hommes, Rhea supplia ses parents, terre et ciel étoilés, d'imaginer avec elle une ruse qui lui permit de mettre au monde son enfant en cachette et de venger les érinies de son père et de ses enfants avalés par le grand Saturne à l'esprit retors. Terre et ciel se laissèrent persuader par leur fille. Ils lui firent connaître quel destin était réservé au roi Saturne et à son fils au cœur ferme. Puis, comme elle s'apprêtait à mettre au monde le dernier de ses enfants, le grand Zeus, ils envoyèrent leur fille à Lyctos, au gras pays de Crète. Terre énorme voulut bien recevoir l'enfant, le nourrir et l'élever dans la vaste Crète. Alors, le prenant dans ses bras, Rhea cacha l'enfant dans une grotte profonde, dans les entrailles de la terre divine, au flanc du mont Égon que couvre la forêt. Après quoi, elle entoura de l'ange une grosse pierre qu'elle remit à Saturne, puissant seigneur et premier roi des dieux. Saturne se saisit de la pierre que lui tendait Rhea et la mit en réserve dans son ventre, sans se douter, le misérable, qu'en échange de la pierre, son propre fils lui restait pour l'avenir, invaincu et libre de toute crainte. C'était lui qui bientôt le détrônerait après l'avoir vaincu par la force de son bras et régnerait parmi les immortels. Bientôt, le corps éclatant du jeune prince croissait en taille et en vigueur. Au retour de l'année, vaincu par les artifices et la force de son fils, le grand Saturne, à l'esprit retors, rendit chacun des enfants qu'il avait avalés. Il vomit d'abord la pierre qu'il avait avalée en dernier. Zeus la fixa sur la terre aux larges routes, dans la sainte Pytho nichée au pied du Parnasse, comme un signe pour les âges à venir, une merveille pour les mortels. Hésiode, Théogonie.
Dans l'organisation générale du ciel, du panthéon, de la Méditerranée, il y a les dieux, qu'on pourrait dire les dieux fabricateurs, ceux qui veillent sur la vie de la cité. Alors, les uns veillent sur la guerre, les autres veillent sur la paix, les uns veillent sur le travail des champs, les autres veillent sur le travail des ateliers. Saturne, lui, va prendre une position tout à fait différente. Il va être comme en dehors de l'activité proprement humaine. On pourrait dire que c'est un regard. Et c'est un regard qui va embrasser progressivement, régulièrement, l'ensemble des activités humaines. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce regard? Il y a le regard d'une humanité qui s'est mise en mouvement. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce texte magnifique de Cioran, qui parle de la chute dans le temps. C'est un thème qui sera repris d'ailleurs par John Cooper Powys dans un texte admirable sur les terres célestes. C'est le problème de l'histoire. Cioran, comme Powys, nous dit ceci, au fond, si nous n'étions pas tombés dans l'histoire, c'est-à-dire si nous avions été comme livrés à ce qui ensuite va réapparaître dans certaines mythes, dans certaines religions orientales, c'est-à-dire quelque chose qui soit de l'ordre de la contemplation. Si seulement les choses n'avaient pas bougé, à ce moment-là, l'humanité n'aurait pas connu toutes les détresses, toutes les angoisses qu'elle a connues depuis. Dans le texte de Pouvis, on dit si la virginité avait prévalu. Et c'est le thème, finalement, qui se retrouve dans le récit mythique. Au fond, il y a eu rupture de la virginité primitive. Ce qui fait que il y a une sorte d'itinéraire bizarre qui conduirait à mettre en relation le dieu Saturne, qui est le dieu représentant la chute dans le temps, et puis, à l'autre bout, si vous voulez, de l'imagination des dieux, ce que vous connaissez bien à travers le culte de la déesse mère, c'est-à-dire l'image d'une déesse primitive qui, elle, ne crée pas ou qui plutôt crée tout le temps.
Ce qui est en jeu, il faut sans aucun doute l'entendre dans cette mythologie de Saturne, c'est la dialectique de ce que, dans la psychologie moderne, on appellera la tension entre le thème du puer, de l'enfant, du sénex, du vieillard. Et évidemment, tout le problème, c'est celui de la transformation, c'est celui de la métamorphose, c'est celui de l'alchimie, c'est celui de ce voyage de l'âme entre la planète Mercure et la planète Saturne dans l'astrologie, la manière dont on doit passer d'un état enfantin ou d'une vieillesse stérile à un jeu qui est au contraire un jeu extrêmement fécond, à l'enfant qui est, selon la parole évangélique, être redevenu comme un enfant, c'est-à-dire en avoir retrouvé l'esprit, et où le vieillard est beaucoup plus celui des anciennes traditions, particulièrement comme on le trouvait en Asie ou en Afrique, c'est-à-dire le vieillard est le dépositaire de la sagesse. Et où, d'une certaine façon, c'est précisément la métamorphose intérieure qui est ainsi désignée, où de l'état d'enfance ou de la retombée en enfance, qui est celle du vieillard, on accède à un plan qui, d'abord et avant tout, est un plan spirituel.
Et malgré les apparences, ces histoires de Dieu dans leur ciel lointain sont des histoires extraordinairement actuelles. Je pense ici à la phrase de Joyce qui dit « L'histoire est un cauchemar dont je cherche à m'éveiller ». Eh bien, ce qu'exprime la Joyce, c'est le sentiment que nous sommes, comme malgré nous, emportés par une espèce de, par ce mouvement même du monde, qui est le mouvement de la métamorphose. Et qu'il y a en nous, et c'est peut-être ce qu'exprime d'une certaine manière le mythe saturnien, qu'il y a en nous une sorte de volonté d'arrêter l'histoire, de ne plus se livrer au mouvement, par conséquent, de s'abandonner à quelque chose qui serait de l'ordre de la contemplation pure. Et le mélancolique dont Saturne dessine un peu le visage, c'est celui qui est finalement toujours tenté de se mettre en dehors de la vie, en dehors de la représentation, qui veut se livrer à quelque chose qui est de l'ordre de la, finalement, de ce que nous connaissons nous mieux, de l'ordre de la rêverie, et qui, à l'intérieur de la rêverie, veut trouver l'intensité même et la richesse de la vie. Alors, il n'est pas la peine de montrer à quel point cette capacité rêveuse de l'homme a été le foyer, le ferment capital de l'imagination artistique, c'est-à-dire que c'est là que finalement toute la création a puisé une grande part de sa fécondité, une grande part aussi de sa couleur, de sa variété.
Ce rapport de Saturne, finalement, avec, je dirais, le déclenchement de l'histoire dans lequel, d'une certaine manière, nous nous sommes un peu perdus, nous nous sommes exilés par rapport à nos existences premières. On voit très bien qu'en même temps, ce à quoi vous renvoyez, c'est le moment où, dans la mythologie grecque, Chronos, qui s'écrivait C-R-O, a été assimilé en même temps avec le temps Chronos, C-H-R-O, mais où ils sont arrivés à faire une seule entité.
où effectivement il y a eu à travers cette image, ce thème de l'engloutissement de ses propres œuvres, le fait que nous étions nous-mêmes engloutis par le temps, nous étions comme happés par lui et d'une certaine façon nous étions déchiquetés par lui jusqu'à l'issue fatale qui était la nôtre. Mais alors ce qui m'intéresse là-dedans justement, c'est que tout de même, pourquoi, quel est le sens de ce cannibalisme, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, de Cronos. D'ailleurs, vous faisiez allusion à l'iconographie, on se rappelle peut-être le Saturne de Goya, qui est l'œuvre parmi les œuvres les plus horribles que l'on puisse connaître. Ce Saturne qui avale ses enfants avec le sang qui découle comme ça le long de sa bouche. Et mais comme si ça disait, je dirais quand même quelque chose profond de ce qu'est la nature humaine, de ce qu'est la condition existentielle de l'homme sur cette terre.
Il y a plusieurs interprétations possibles de ce geste de Saturne. Il y en a une qui, si vous voulez, peut apparaître comme justement une régression par rapport au temps. Et Saturne mange ses enfants parce que il redoute le temps, il redoute l'histoire. Par contre, et les avaler, c'est au fond les mettre à l'abri. D'une sorte de mise en garde contre les mauvaises œuvres de la Terre et de l'histoire. Et puis, en même temps, il y a aussi le fait que nous nous trouvons ici devant, si vous voulez, l'espèce de conflit premier entre notre œuvre et nous-mêmes. Au fond, nous aussi, nous passons notre temps à créer. Nous aspirons à la métamorphoser. En même temps, nous craignons nos propres œuvres. Et bien, dans le cas de Saturne, c'est la même chose. Saturne crée, mais en même temps, il a peur de ses enfants qui vont venir au monde et il a la tentation de les dévorer. Si vous voulez, il y a deux directions. Pas à l'intérieur du mythe, tout le problème du temps qui appartient au domaine propre de Cronos, le problème du temps est ici évalué. Il s'agit de savoir si nous allons vers le temps en avant ou vers le temps en arrière. Et alors, si nous allons vers le temps en arrière, nous mangeons nos enfants parce que nous avons peur d'être dépossédés par eux ou parce que nous avons peur qu'ils ne soient pas bien dans ce monde. Si au contraire, nous n'avons pas peur du temps qui vient, alors à ce moment-là, nous laissons l'enfant s'épanouir et nous offrons le monde, non point à l'arrêt, mais à la métamorphose.
Donc Saturne, effectivement, va devenir le dieu de la mélancolie, vous le disiez. Dans la cosmologie, Saturne, c'est la planète la plus lointaine que l'on connaisse. Ce qu'on appelle les planètes trans-saturniennes ne seront découvertes que bien, bien, bien longtemps après. Et donc Saturne est à la fois le dieu, je dirais, de la lourdeur, de la lenteur, effectivement de l'humeur noire, ce que veut dire exactement mélancolie. On sait que c'est le rôle qu'il a en astrologie, on sait que c'est le rôle qu'il a aussi en alchimie. Ou d'une certaine manière, Saturne est souvent accouplé avec le plomb, c'est-à-dire justement cette sorte de matière confuse qu'il va falloir travailler.
Ce que j'ai essayé de faire dans ce petit essai, c'est de montrer comment la mélancolie, qui par étymologie est une humeur noire, hein, peut se transformer, et on m'excusera de cette dérive linguistique, en mélancolie blanche. C'est-à-dire de faire de la mélancolie non pas une force destructrice, mais au contraire une force d'invention. Et par conséquent, de l'utiliser de manière à ce que, au lieu de nous réduire, au lieu de nous appauvrir, elles viennent au contraire à nous enrichir. Et là, il me semble que ce qui est capital, si vous voulez, c'est que la mélancolie, c'est au fond la difficulté que nous avons à supporter. Et c'est pour moi, je n'ai pas une perspective tout à fait capitale, au fond la vraie souffrance, c'est de supporter la beauté du monde. Autrement dit, le monde est trop beau pour nous. Et il y a comme un fossé qui s'approfondit sans cesse, si nous n'y prenons garde, entre notre propre nature qui est pauvre, misérable à beaucoup d'égards, et la somptuosité de la création. Et par conséquent, tout ce que nous devons, grâce en partie à notre imagination saturnienne, si vous voulez, c'est inventer justement ce qui va nous délivrer de notre pauvreté et au contraire nous donner le sentiment que nous sommes à la mesure de cette beauté du monde, et cette beauté du monde qui serait enfin notre seul souci, comme disent les poètes.
toi qui ne vieillis pas, père des hommes et des dieux, toi le pur, l'ingénieux, le fort et le vaillant titan qui épuise toutes choses pour ensuite leur redonner vie. Toi, le consubstantiel à l'ensemble du monde. Toi, le maître éternel du temps, Chronos l'éloquent, rejeton de la terre et du ciel étoilé. Tu es naissance, croissance, décroissance de l'univers, compagnon de Rhéa, auguste Prométhée. Tu habites tous les lieux du monde, ô tutélaire, ô Dolosif, ô suprême. Aussi, écoute ma voix suppliante et fais que ma vie s'écoule en un bonheur irréprochable. Hymne orphique à Saturne.
Il me semble que nous rejoignions en même temps le terme, le double terme d'ailleurs, de la richesse interne, qui est celle de Saturne, et celle de sa sagesse. C'est-à-dire finalement ce voyage justement qu'accomplit Saturne après avoir été détrôné, voyage souterrain en quelque sorte, qui le fait revenir, vous nous l'avez rappelé, soit dans le Latium chez les Romains, soit dans les régions boréales. Chez les Romains, c'est ce fameux thème qu'on trouve dans la quatrième églogue de Virgile, cette églogue tellement mystérieuse, vous savez, ce vers qui a fait réfléchir et gloser pendant des siècles, Iam redit ad Virgo et regia Saturna, déjà revient la Vierge et les règnes de Saturne. Alors déjà, je note qu'on trouve exactement la liaison que vous faisiez entre le thème de la virginité et la figure de Saturne. Et c'est ce règne de Saturne est effectivement le règne de l'abondance, le règne de l'âge d'or. D'une certaine manière. Et en même temps, dans les régions boréales, vous le disiez, c'est ce soleil doux en même temps, qui ne se couche jamais, et donc le soleil, l'or, si l'on peut dire, de la sagesse. Donc, est-ce qu'il n'y a pas justement toute cette complémentarité de Saturne, qui est à la fois la sagesse qui donne la fécondité, la sagesse qui assure le bonheur des hommes, et le bonheur des hommes qui n'existe que fondé, d'une part, avec la sagesse de la Vierge elle-même, et la sagesse qui est celle de Saturne?
Oui, je crois d'ailleurs que c'est le souci que vous retrouvez dans la phrase bien connue de Breton quand il dit « Je cherche l'or du temps ». Dans cette explosion de lumière que représente précisément ces terres boréales que j'évoque dans ce petit essai, il y a le sentiment, si vous voulez, que il y a une révélation qui nous vient comme ça, de l'excès d'un lieu où la lumière est extrême. Moi, j'ai fait personnellement l'expérience même de cette lumière boréale au cours d'un voyage extraordinaire d'avion de Montréal à Paris. Et on a l'impression que dans une certaine contrée du monde, mais cette contrée peut être variable, hein, il y a une intensité lumineuse telle que non seulement le monde est éclairé, mais notre âme même est éclairée, que par conséquent, nous devenons, nous aussi, enfants du soleil. Et que par conséquent, devenus enfants du soleil, nous sommes au fond, non seulement les témoins de la lumière, mais nous sommes la lanterne même. Nous sommes le faisceau grâce auquel le monde peut continuer à se conduire. Et dans le mythe de Saturne, on voit bien que ce qu'il va essayer de transformer, ce Saturne condamné au fond à la détresse, condamné à la souffrance, à la solitude, c'est de faire de cette solitude et de cette souffrance une force et qui, comme le phénix, si vous voulez, va devenir, étant au fond de la détresse, une lumière qui est capable d'illuminer et l'âme du monde et l'âme de l'être. Et dans ce dialogue avec la lumière, ce qui va être brûlé, parce qu'il y a bien un brasier, hein, ce qui va être brûlé précisément par les soins d'un Saturne qui aura reconquis sa véritable lumière, c'est tout ce qui est en nous pesant, hein, tout ce qui est en nous lourd, triste, sombre, et où, par conséquent, il y aura, grâce à ce foyer, grâce à cette lumière, la possibilité de transformer ce plomb que vous évoquiez en or. Et c'est la démarche que vous allez ensuite retrouver chez tous les alchimistes, hein, dont Saturne est véritablement le père emblématique, puisque Saturne leur dit, vous êtes capable de transformer le plomb en or, vous êtes capable de trouver en nous la force nécessaire pour que les choses deviennent ce que vous voyez qu'elles soient.
C'est pas ainsi qu'on peut comprendre l'un des thèmes les plus mystérieux de certains textes alchimistes, je pense à des textes alchimiques du Moyen-Âge ou de la Renaissance, dans lesquels il y a ce thème tout à fait étonnant du voyage de l'âme. Et du voyage de l'âme qui part de Mercure, le Mercure qui est la substance double, en quelque sorte, le dieu trompeur et rieur en même temps, le dieu de la légèreté, ce voyage de l'âme qui part de Mercure, qui va vers Saturne, qui dans les textes est appelé l'Anticus d'Irum, l'ancien des jours, et qui se s'imbibant en quelque sorte de toute la sagesse de Saturne, de toute la connaissance profonde de Saturne, revient à Mercure et fait la conjonction entre les deux. Et où, en quelque sorte, finalement, là se produit l'œuvre alchimique. Comme si on avait besoin, justement, de cette connaissance, de cette sagesse, de cet or, qui est aussi Saturne, comme si, je dirais, Saturne était à la fois le plomb et l'or, et si Mercure lui-même étant d'une certaine manière aussi, à la fois comme double et comme unique, le plomb et l'or.
Là, les voies sont multiples et difficiles à explorer. Je dirais que il y a deux voies qui me paraissent cependant essentielles, si vous voulez, dans cette transformation de nature alchimique, même si l'être humain n'est pas alchimique, mais simplement désireux de trouver sa propre miroir. C'est d'une part le phénomène de la contemplation, et d'autre part le phénomène du rêve. Là aussi, dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de ce qui pour moi est tout à fait capital et presque obsessionnel, si vous voulez, qui est l'ordre de la révélation. Je m'explique. Dans le rêve, pour les gens qui sont attentifs au continent onirique qui est le leur, et qui, sans tenir compte, sans tenir un journal tout à fait rigoureux, si vous voulez, de ce qui se passe dans leur nuit, s'efforcent quand même de bien garder le dialogue avec les ombres qui les occupent pendant qu'ils sont endormis. Eh bien, dans le sommeil et dans le rêve, ils nous sont de temps en temps signifiés quelque chose qui est de l'ordre de la révélation, des indications précises, pas, sur ce que nous ne soupçonnions point de nous-mêmes ou des autres, ou du pays ou des lieux qui nous entourent, mais qui tout d'un coup nous donnent le sentiment que nous sommes effectivement amenés à quelque chose qui est vraiment de l'ordre du non montré encore, c'est-à-dire quelque chose qui est totalement nouveau, totalement inédit, et qui par conséquent va nous ouvrir à un autre continent. Ça, c'est dans le rêve. Mais il y a aussi la contemplation. Hein. Et si vous voulez lire attentivement les écrits mystiques, vous voyez, vous êtes saisi par une sorte de fièvre extraordinaire. Pourquoi ? Parce que vous sentez qu'à un certain moment, le voyage de l'âme accompli par le mystique, qui n'est pas toujours d'ailleurs mystique de son plein gré, et quelquefois mystique malgré lui, n'est-ce pas ? Eh bien, ce voyage, c'est un voyage qui ouvre précisément à cette révélation où tout d'un coup, le ciel et la terre vont changer de couleur et l'âme elle-même va trouver une nourriture qu'elle ne soupçonnait point.
Claude Mettra, si vous voulez bien, on va un petit peu changer d'époque, c'est-à-dire le moment où l'on assiste en Europe à ce que j'appellerais la grande réhabilitation de Saturne. En gros, c'est la fin du XVe siècle, nous sommes à la cour des Médicis à Florence, et c'est le moment où s'affirme ce que l'on appelle le mouvement néoplatonicien de Florence, particulièrement avec Marcel Ficin. Marcel Ficin, qui traduit les textes aussi magnifiques de Platon que Le Banquet, et Marcel Ficin qui écrit une véritable apologie de Saturne. Apologie de Saturne à travers justement le thème de la mélancolie, et Marcel Ficin qui nous explique que si l'on veut être un grand philosophe, que si l'on doit être un génie, on ne peut l'être que à travers la mélancolie. Et d'une certaine façon, c'est le renversement de tout ce qu'on disait avant. La mélancolie était très mal vue, et là Marcel Ficin nous dit au contraire, la vraie richesse de l'esprit, elle est là.
Pour ce qui est de l'assimilation de Saturne et du génie, je crois que elle réside essentiellement dans cette obsession mélancolique qui fait que le créateur est constamment appelé, si vous voulez, à dépasser cette souffrance qui est en lui. Là, les témoignages d'artistes ne manquent pas, surtout d'ailleurs les témoignages des peintres, c'est-à-dire de gens qui soit complètement habité par l'obsession dont Saturne est le symbole, c'est-à-dire des gens habités par la préoccupation de cette part d'eux-mêmes qui serait la part créatrice et qu'ils auraient perdue. Par conséquent, cette part créatrice, elle est en eux, mais elle ne sait pas où elles sont, elle est cachée quelque part. D'où l'effort extraordinaire auquel Saturne convie les artistes, c'est à chercher en eux le secret même de leur création. Il y a quelque chose qui pourrait apparaître, si vous voulez, comme le contraire absolu de la démarche saturnienne, c'est tout ce qui ressemble à la copie, à l'imitation. Et dans l'œuvre d'art dominée par Saturne, il n'y a jamais trace d'imitation. Le génie saturnien, c'est celui qui essaie de trouver l'étincelle, le feu qui lui est particulier, la lumière qui n'appartient qu'à lui. Par conséquent, le génie trouve abri dans Saturne parce que Saturne lui murmure qu'il y a quelque part quelque chose, une lumière, une force, un appétit d'être qui n'appartient qu'à lui et que c'est à lui de la découvrir.
Rester très largement dans l'esprit qui était celui de Claude Métra et en même temps dans ses centres d'intérêt, je voudrais d'abord attirer l'attention de nos auditeurs sur l'étude de Charles Malamud, Féminité de la parole, étude sur l'Inde ancienne, aux éditions Albin Michel. En effet, Charles Malamud a été toujours extrêmement frappé en tant que spécialiste de l'Inde du fait que dans l'Inde védique, le sacrifice était du genre masculin alors que la parole était du genre féminin. Et on sait très bien qu'à travers la parole, c'est à la fois le pouvoir de création qui est ainsi désigné, et en même temps, cette parole, c'est le texte même du Véda qui est considéré comme une entité féminine qui va être éventuellement appelée à une hiérogamie, à une union avec les dieux en tant que tels, qui vont l'engrosser, si l'on peut dire, et lui faire donner toute sa fécondité. Et c'est là une réflexion extrêmement profonde à laquelle nous sommes invités sur la différenciation sexuelle telle que éventuellement elle peut même se montrer dans le processus de la cosmogonie, dans les textes sacrés, et éventuellement dans la manière dont nous envisageons les déités supérieures. Comme le Soma était prisonnier des Gandharva, les génies de l'amour, les dieux se dirent: les Gandharva aiment les femmes. envoyons-leur la parole qui est femme. La parole revint chez les dieux en ramenant le soma, mais elle était suivie par les Gandharva furieux. Gardez pour vous le soma, mais rendez-nous la parole. Par ailleurs, je voudrais aussi attirer l'attention sur l'étude extrêmement pratique et extrêmement claire de Jean-Marc Vivenza, le Béaba de la Rose-Croix, aux éditions Pardès, et on sait à quel point la Rose-Croix était quelque chose qui avait, je dirais, labouré l'imagination de Claude Métra. Il ne faut pas être d'ailleurs victime du titre Béaba de la Rose-Croix, on a l'impression que c'est quelque chose d'extrêmement simple. En fait, il s'agit d'une introduction, mais d'une introduction extrêmement documentée, extrêmement précise, extrêmement intelligente en même temps, sur ce phénomène de la Rose-Croix, qui, on le sait, a traversé tout le XVIIe siècle, et qui, depuis d'ailleurs, a donné lieu à beaucoup de fantasmes dans l'imagination, et particulièrement l'imagination de nos contemporains. Or là, nous sommes ramenés au texte fondateur, la Fama Fraternitatis, la Confessio Fraternitatis, et surtout les noces chimiques de Christian de Rosenkreutz, en nous montrant qu'il ne s'agit pas, évidemment, des aventures de quelqu'un qui a vécu réellement, mais beaucoup plus d'une production de l'imagination, en particulier d'un certain nombre de théologiens allemands, de théologiens protestants, particulièrement luthériens, qui essayaient d'imaginer un autre état de l'humanité, et éventuellement les étapes spirituelles, qui étaient celles de cette transformation qu'ils appelaient de leur vœu. Ce jour est celui des noces royales. Si ta naissance t'y convie, si Dieu t'a prédestiné à la joie, gagne donc le sommet que trois temples couronnent, et qu'en personne tu vois l'histoire. Prudence, observe-toi. Sans une ablution appliquée, les noces peuvent te nuire. Dommage pour l'hésitant, gare à qui ne fait pas le poids. Et puis, nous pouvons poursuivre cette enquête par l'ouvrage de Isabelle Cani, Le Graal en question, un mythe pour sortir de la modernité, aux éditions d'Hervy, dans lequel Isabelle Cani constate, selon une expression maintenant répandue, le désenchantement du monde auquel nous sommes soumis, la mécanisation, la technicisation de ce monde, sa perte d'âme, et où elle essaie de montrer comme le Graal, à travers des phénomènes comme la littérature, particulièrement celle de fantasy et celle de science-fiction, et à travers le cinéma, il suffit de penser à l'Excalibur de John Boorman, bien sûr, ou l'Indiana Jones et la dernière croisade de Spielberg, comment donc le Graal fait retour dans notre propre culture afin de nous ouvrir en quelque sorte des voies et de nous réouvrir le territoire de l'imagination dans lequel peut émerger le sens du sacré et nous indiquer une sortie de la modernité qui ne soit pas d'ailleurs une négation de la modernité, mais beaucoup plus son dépassement. Et en faisant attention en même temps sur le fait que le Graal peut être aussi la source de fantasmes, pour ne pas dire de délire, et on sait par exemple qu'elle a été toute la construction absolument fantasmatique, par exemple du nazisme sur le Graal, dont il avait inversé complètement le symbole, et où donc, comme toujours d'ailleurs, avec toutes les productions de l'imaginaire, il faut toujours arriver à trouver quelle est la place juste selon laquelle on manie la puissance symbolique telle qu'elle habite dans notre cœur. Le sang du Christ est pour le Graal une bonne excuse qui ne me rassure pas. Je me méfie de cette vieille outre qui a recueilli bien étrangement le vin nouveau. J'y vois des pièges, un symbole mal ressuyé, une mutation plus ancienne que le monde du rachat. Julien Gracq, le roi pêcheur. Celui que mon salvage attendait, c'était un simple. Ne pleure pas, Kondry. La folie du Graal n'est pas éteinte. Un autre viendra. Espérance dans le Sauveur. Aussi Julien Gracq, aussi le roi pêcheur. Enfin, je voudrais terminer par l'évocation du Senchaku Shu de Onen aux éditions Fayard. Senchaku Shu, que l'on traduit en français approximativement par le guet de la terre pure. De quoi s'agit-il au juste? Onen était un moine bouddhiste vivant au Japon au XIIe siècle, qui d'une certaine manière n'était satisfait par aucune des écoles bouddhiques qui existaient, particulièrement par l'école Tendai qui était alors prédominante, et qui va écrire ce guet de la terre pure qui est le texte fondateur de ce que l'on appelle précisément l'école de la terre pure, qui relève de ce que, en Occident, nous avons pris l'habitude d'appeler le bouddhisme ésotérique. De quoi s'agit-il? C'est de la commémoration du Bouddha, et particulièrement du Bouddha Amida, c'est-à-dire du Bouddha bienveillant, du Bouddha plein de compassion vis-à-vis de l'humanité. Et bien entendu, dans commémoration, il faut entendre le mémoration, c'est-à-dire ce phénomène de remémoration d'une réalité au-delà de notre réalité sensible, et qui va consister soit dans la contemplation de l'image du Bouddha, soit dans la prononciation de son nom, avec effectivement toute la réflexion que cela emporte quant à la faculté créatrice de la parole. D'une certaine manière, nous ne sommes pas très loin de ce que les mystiques musulmans l'appellent le Alam al-Mithal, le pays du nounou, le pays de l'imagination créatrice, ce qui d'ailleurs éventuellement nous oblige à voir le bouddhisme d'une manière tout à fait différente de celle à laquelle nous sommes habitués. Lorsque le Bouddha Shakyamuni eut fini d'exposer ses sutras, les bouddhas, nombreux comme les grains de sable du Gange, dans les univers des 10 directions, déployèrent chacun leur langue et attestèrent ses sutras par ces mots. Tous les êtres qui commémorent le Bouddha Amida sont véhiculés par le vœu primordial de ce Bouddha. Grâce au pouvoir de son vœu de grande compassion, ils naîtront certainement dans son univers bonheur suprême.
Les livres aujourd'hui, Féminité de la parole, études sur l'Inde ancienne de Charles Malamud aux éditions Albin Michel. Le Béaba de la Rose-Croix de Jean-Marc Vivenza aux éditions Pardès. Le Graal en question, un mythe pour sortir de la modernité de Isabelle Cani aux éditions Dervy. Et Senchakushu, le guet de la terre pure de Onen aux éditions Fayard.